le temps de découvrir leurs besoins pour leur fournir le meilleur équipement possible. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous nous occupons de tous les papiers pour eux.
Alors Madame Bagné, contente d'Optique 2000?
Oui, oui. Et en plus, ils gèrent tout pour moi.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Tu seras mon père, le nouveau roman de Metin Arditi. Renato, 7 ans, est ravagé par la mort de son géniteur, enlevé par les Brigades Rouges. 10 ans plus tard, il éprouve une fascination à l'égard du professeur Mantegazza, voyant en lui un père de substitution. Renato est un garçon merveilleux, la séduction est réciproque. Mais dans une vie antérieure et sous une autre identité, Mantegazza fait partie des bourreaux. Tu seras mon père, un roman bouleversant de Metin Arditi, aux éditions Grasset.
France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jacqueline Fardel.
Bonjour, au sommaire aujourd'hui, des grandes surfaces qui appellent les consommateurs à plus de modération face aux rayons qui se vident de certains produits, conséquence de la guerre en Ukraine, ces rationnements ou rappel à l'ordre pour éviter les pénuries. Et au passage en caisse, la facture toujours un peu plus lourde, une hausse des prix qui pourrait grignoter les économies des Français. On fait le point avec le directeur du Cercle de l'Épargne, Philippe Crevel. Inflation et pénurie qui sont en partie dues au conflit entre Russie et Ukraine. Vos questions en seconde partie de ce 13-14 à Anin Colin Lebedev, spécialiste des sociétés post-soviétiques, vous appelle au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Dans le journal également, le travail qui continue pour préparer les législatives, les alliances signées à gauche, dans la majorité et maintenant, analyse à suivre. Et le loup qui joue à cache-cache et apparaît où on ne l'attend pas en Bretagne cette semaine après plus d'un siècle d'absence. Dijon qui ouvre sa cité de la gastronomie à boire et à manger, mais pas seulement. Bienvenue dans ce 13-14.
France Inter. Le 13-14.
En Isère, on vous en parlait ce matin sur France Inter. Ce drame lors d'une sortie scolaire, la mort d'une spéléologue. Elle encadrait une sortie de collégiens dans les cuves de Sassenage, une grotte proche de Grenoble. Le groupe surpris par une brusque montée des eaux, l'eau est montée très vite, trop vite. La monitrice de 55 ans a été emportée juste après avoir sauvé une enfant. Les précisions de Véronique Pouillot.
Sabine Lorne, 55 ans, était monitrice de ski de fond sur le plateau du Vercors et guide spéléo. Elle était aussi l'une des rares femmes chef d'équipe. Et c'est à ce titre qu'hier, elle encadrait avec 3 collègues cette sortie scolaire dans les cuves de Sassenage. Alors que presque tous les élèves avaient regagné la sortie, un dernier groupe a été surpris par la brusque montée des eaux. Sabine Lorne n'a pas hésité à donner sa vie pour sauver celle d'une collégienne. Un geste héroïque, salué par le conseiller technique spéléo auprès du préfet de l'Isère, Thierry Laribe.
Si je la connaissais un peu en tant que professionnel, un peu en tant que spéléo, je l'ai bien connue en tant que sauveteur. Et je peux vous dire qu'elle menait la mission à son terme. Et il faut prendre son geste dans ce sens-là. À partir du moment où elle avait la responsabilité du groupe, eh ben elle a tout fait, tout, jusqu'au bout, pour sortir. C'est le sens de ce geste-là, c'est qu'elle est prête à sacrifier sa vie pour une gamine.
Et les membres du secours Spéléo 38, sous le choc, sont suivis en ce moment par une cellule psychologique.
Véronique Poyot. Dans les rayons des supermarchés, le quotidien de plus en plus compliqué pour les consommateurs. Il faut jongler avec la hausse des prix, jongler aussi avec les pénuries. Les rayons d'huile de cuisson, de farine ou encore d'œufs se vident. Effet de la guerre en Ukraine notamment, des problèmes d'importation. Effet aussi du comportement de certains consommateurs qui se ruent toujours sur les produits et font des stocks, notamment d'huile de tournesol. Alors certaines grandes surfaces prennent les devants et passent au rationnement.
Sur la semaine dernière, on a vendu 200 bouteilles d'huile de tournesol. On a limité la consommation à 3 litres par panier, mais les gens en prennent tout de suite 3 litres. Ça fait des rayons qui sont en rupture permanente pratiquement.
Rationnement ici dans une grande surface normande à Darnétal. D'autres supermarchés grondent et rappellent les consommateurs à l'ordre, appellent au civisme et à la modération. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Dans certains magasins, on a même affiché quelques rappels.
En effet, c'est une petite affiche assez discrète collée sur les portes de certains supermarchés Lidl. Un message qui demande aux clients de limiter leurs achats d'huile. 3 bouteilles d'un litre maximum pour l'huile de tournesol et de colza, par exemple. La direction de l'enseigne précise et qu'il s'agit surtout d'un message préventif pour éviter la ruée de certains produits et donc une éventuelle pénurie. Dans ce magasin du 15e arrondissement de Paris, les consommateurs sont plutôt compréhensifs.
Je suis pour le partage pour que tout le monde dispose quand même de l'huile.
Ça vous est arrivé dans ce magasin de ne pas trouver d'huile alors que vous en aviez besoin ?
Absolument. Mais moi, je n'achète qu'au fur et à mesure de mes besoins.
Vous allez acheter de l'huile de tournesol ?
Non, parce que j'en avais déjà. Il y avait une promotion, je l'avais pris plusieurs bouteilles. Il faut en laisser pour les autres. Si on n'a pas besoin, qu'est-ce qu'on en fait ? On stocke pourquoi ?
Vous achetez souvent de l'huile de cuisson ?
Oui, bah, l'huile de tournesol, tout le temps. Mais il ne faut pas dépasser 2 bouteilles par famille. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils demandent de limiter l'achat des matières de base comme ça. J'ai du mal à réaliser que ça peut arriver dans un pays comme la France.
D'autres enseignes de la grande distribution appellent également leurs clients à la modération car elles font face à des difficultés d'approvisionnement depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce pays qui reste le premier exportateur mondial d'huile de consommation.
Yann Galli, qui est face à l'inflation qui a atteint plus 4,8% à la fin avril, les bas de laine pourraient se réduire comme peau de chagrin. Dans le même temps, par exemple, le livret A, le produit d'épargne le plus répandu chez les Français, a été légèrement revalorisé début février de 0,5% à 1%. Bonjour Philippe Crevel.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Cercle de l'épargne. Alors, léger coup de pouce sur le livret A en février. Est-ce que ça suffit ou est-ce que les économies des Français vont fondre ?
Alors, depuis le début de l'année, l'inflation augmente, hein, comme ça vient d'être indiqué. On est à 4,8%. Ça risque encore d'augmenter dans les prochains mois. Donc, évidemment, dans ces conditions, la hausse du 1er février, elle était complètement effacée. Et puis d'ailleurs, elle ne compensait pas donc l'augmentation des prix déjà au 1er février. Donc évidemment, ce qu'on appelle le rendement réel de l'épargne, hein, une fois qu'on enlève l'inflation, ce rendement réel est négatif pour le moment, pour le livret A, c'est à peu près 3 points. C'est un montant élevé hein, dans l'histoire de livret A. Il faut remonter aux années 80 pour trouver une situation encore plus difficile pour les épargnants.
Oui, ça veut dire que les Français perdent du pouvoir d'achat sur leur épargne, d'autant qu'ils ont beaucoup épargné ces derniers temps, frileux face à la vague de Covid et à la guerre en Ukraine.
Les Français ont épargné 175 milliards d'euros depuis, en plus de ce qu'ils épargnent traditionnellement depuis le début de la crise sanitaire. Et cet effort ne se démord pas parce que depuis donc le mois de janvier, les Français ont mis plus d'une dizaine de milliards d'euros sur le seul livret A. Ce qui prouve bien que dans un climat d'incertitude, d'angoisse, pour le pouvoir d'achat, et puis on va dire au niveau géopolitique, les Français continuent de mettre de l'argent de côté, même si le rendement de cette épargne est négatif.
Ce sont les classes populaires qui sont les plus touchées, celles justement qui ont un livret A, 55 millions de Français.
Alors, les classes populaires sont avant tout touchées par la hausse des prix à la consommation dans les magasins, parce que ce sont les ménages qui épargnent le moins et qui sont les plus contraints par rapport aux dépenses obligatoires, hein, de l'alimentation, du logement. Donc on ne va pas dire que ce sont ceux qui sont le plus durement frappés par donc la moindre rémunération de l'épargne. Ce sont plutôt les classes moyennes, hein, le début des classes moyennes, qui sont investies beaucoup sur les livrets A, le livret de développement durable et solidaire. Et donc là, évidemment, qu'il y a de la perte en ligne du fait que le rendement est négatif pour l'épargne investie sur ce type de produit.
Est-ce qu'il faudrait un geste du gouvernement, notamment en première août, une revalorisation du livret A ? Peut-être certains demandent que cette rémunération soit doublée ?
Donc, il y a une formule pour le livret A, hein, donc c'est la moyenne de l'inflation et des taux des marchés monétaires. Hein. Alors, les taux des marchés monétaires restent très faibles aujourd'hui, hein, donc ça fait un peu diminuer cette moyenne. A priori, si on applique la formule, le taux du livret A devrait être autour de 1,8, voire 2%, donc ce qui correspondrait à un doublement, ce qui permettrait, on va dire, de compenser quasiment voilà, la moitié de la perte hein, de rendement réel du livret A. Ce serait pas une indexation complète, ce serait un effort substantiel, parce que derrière, ça a un coût, hein, il faut financer. Donc ce sont les banques et l'État hein, qui financeraient l'augmentation du taux du livret A.
Merci beaucoup Philippe Crevel. Je rappelle que vous êtes directeur du Cercle de l'épargne. Et face à la hausse des prix, le Conseil d'État qui confirme une mesure pour contenir les factures d'électricité, le juge des référés du Conseil d'État a décidé de maintenir l'augmentation du volume d'électricité à bas prix qu'EDF doit vendre à ses concurrents. Cette mesure gouvernementale était contestée par les syndicats d'EDF. Il l'a jugée pénalisante pour le groupe. un mois des élections législatives, les alliances se précisent, c'est signé donc au PS. Après des débats parfois tendus, tard dans la nuit, le Conseil national du Parti socialiste a finalement adopté l'accord avec la France insoumise pour les élections du mois prochain. 62% de oui pour rejoindre l'Union de la gauche, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Une validation, mais qui ne fait pas forcément l'unanimité. Il va pas peut-être falloir gérer les dissidences. Bonjour Anne Souhaitement.
Bonjour.
Ça pourrait être le cas dans l'Hérault notamment.
Oui Jacqueline, alors restons prudents car l'accord n'a que quelques heures, vous l'avez dit, les choses peuvent donc encore bouger. Mais effectivement, l'Hérault, terre socialiste par excellence, est rentrée en guerre contre la direction du parti depuis quelques jours. Cet accord, on n'en veut pas, explique par exemple Fatima Bellarech, qui a décidé de maintenir sa candidature malgré l'accord d'union signé à Paris. Et elle n'est pas la seule. Argument, comment un département dirigé par les socialistes, dans une région présidée par une socialiste, ne peut avoir obtenu aucune des 9 investitures dans le département? Et puis comment s'allier à une France insoumise qui, au local, vote contre tout ce qu'on propose? Aux avant-postes de cette rébellion, la très puissante Carole Delga, qui est donc la présidente de la région et qui est allée, geste on ne peut plus symbolique, apporter son soutien dès hier aux 4 candidats qui veulent faire dissidence et qui ne sont pas opposés à des unions, mais à des unions cohérente, insiste le maire de Montpellier. Ces candidats dissidents et ceux qui les soutiennent pourraient-ils être exclus du Parti Socialiste ou bien devancés d'éventuelles sanctions en quittant leur parti comme l'a fait Bernard Cazeneuve? Moi, mes valeurs restent socialistes, répond Fatima Bellarej, qui est encartée depuis 25 ans. La guerre, vous l'avez compris Jacqueline, ne fait que commencer dans l'Hérault.
Anne Souhaitement, et notez que le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, a refusé de rejoindre la nouvelle union à gauche. Et pour les déçus de cet accord à gauche, la main tendue de la majorité, le délégué général de LREM, Stanislas Guérini, invite les opposants à rejoindre la toute nouvelle bannière Ensemble, un mariage là à 3 avec La République En Marche, désormais renommée Renaissance, le Modem et Horizon. Ils vont présenter une candidature unique par circonscription électorale. Ils partageront la même association de financement. Et à la veille de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, une première liste de noms a été publiée hier en soirée. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
Et il y a encore de la place pour des ralliements.
Oui, dans les Pyrénées-Atlantiques, par exemple, le député socialiste David Habib n'a pour l'instant personne face à lui, car il a refusé l'accord avec les Insoumis et hérite donc d'un candidat de la nouvelle Union Populaire. Le patron des députés LR, Damien Abad, n'a pas d'adversaire non plus, alors qu'il est. L'opération séduction continue donc en coulisses. On s'attendait à ce que le député LR, Guillaume Larrivé, soit tranquille aussi, il a multiplié les signes d'allégeance, mais a débuté le quinquennat en publiant un livre « Le coup d'État Macron » et le monsieur en question a de la mémoire car c'est bien Emmanuel Macron qui a tamponné cette liste. Il écarte d'emblée 6 députés sortants, 2 poursuivis pour harcèlement, 1 pour laisser de la place à Manuel Valls, 1 qui a voté contre le pass vaccinal et 2 autres dont Richard Ferrand et Gérald Darmanin ne voulaient plus. Il y aura donc comme toujours quelques dissidents. Édouard Philippe espérait davantage mais il aura, sauf surprise, au moins une vingtaine de députés. Le directeur du parti présidentiel, Paul Midi, va essayer de faire tomber dans l'Essonne le mathématicien Cédric Villani, ancien marcheur. À Paris, la majorité mise sur un conseiller de la ministre en charge du handicap, lui-même en fauteuil, Yanis Bacha. Enfin, le parachutage le plus spectaculaire revient à Jean-Michel Blanquer, candidat à Montargis dans le Loiret. Deuxième salve d'investiture attendue demain.
Maxence Lambrec. Et si vous voulez voter pour ces élections législatives des 12 et 19 juin prochains, c'est le dernier jour aujourd'hui pour vous inscrire sur les listes électorales.
France Inter. Le 13-14, Jacqueline Fardel.
En Ukraine, un nouveau convoi de l'ONU attendu aujourd'hui pour évacuer les derniers civils retranchés dans la Syrie d'Azovstal à Marioupol, là où résistent encore des soldats ukrainiens pour défendre ce port stratégique du Donbass. Selon les autorités ukrainiennes, quelques 500 civils ont pu quitter la ville ces derniers jours. C'est le cas d'Anna Zaitseva, 24 ans. Elle a fini par rejoindre Zaporijjia. Anaëlle Larue l'a rencontrée.
Anna a 24 ans, cette jeune mère a vécu l'enfer d'Azovstal avec son bébé de 6 mois.
Nous n'avons pas seulement entendu, nous avons ressenti les bombardements. Chaque fois qu'une bombe tombait, l'onde de choc traversait l'abri souterrain. Le 25 avril, une bombe au phosphore a explosé près de l'usine. À cause de cette bombe, 2 sorties d'évacuation ont été bloquées.
2 mois plus tard, il voit enfin la lumière du jour, mais au bout du tunnel, des soldats russes.
Nous étions toujours accompagnés d'un soldat russe. J'ai même dû aller aux toilettes sous escorte. Ils nous ont demandé d'enlever nos soutiens-gorge, nos culottes. Nous avons dû expliquer ce que signifient les tatouages. Apparemment, ils cherchaient des symboles nazis.
Fatiguée, Anna n'espère qu'une chose.
J'espère que le monde entier entend et comprend. Nous devons sauver les civils. Autant que je sache, il reste même des enfants dans l'usine. Par conséquent, j'espère qu'un autre miracle se produira et qu'eux aussi seront sauvés.
La jeune femme est désormais en sécurité à Zaporijjia, en attendant de pouvoir reconstruire sa vie.
Anaël Larue avec les moyens techniques de Denis Kataïev. Et du côté des sanctions européennes à l'encontre de la Russie, un sixième train de mesures attendu. La Commission européenne retouche sa proposition d'embargo sur le pétrole russe. Elle propose d'allonger la dérogation accordée à la Hongrie et la Slovaquie, plus dépendantes de ses ressources. Une option pour tenter de convaincre les plus réticents des 27. Il faut atteindre l'unanimité. Alors que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, estime que Bruxelles a franchi une ligne rouge, que la proposition est inacceptable, il se dit cependant prêt à négocier. Et l'Allemagne, qui avait pourtant freiné des quatre fers contre ce boycott du pétrole russe, a finalement dit oui. Le pays a trouvé des alternatives, diversifié ses sources d'approvisionnement. En deux mois, sa dépendance au pétrole russe a chuté de 35% à 12% aujourd'hui. Résultat, le boycott est gérable pour l'économie allemande, assure le ministre de l'économie. Mais sur le terrain, ce n'est pas aussi simple. Reportage à la raffinerie de Lena, à l'est de l'Allemagne, David Philippot.
C'est un paysage de torchères, de cuves et de tuyaux. C'est le cœur stratégique de cette immense zone industrielle gérée par Infraleuna, dont Martin Alliger est le porte-parole.
Ça, c'est la raffinerie Total. C'est ici qu'est produit le carburant pour les stations-service de la région et des produits chimiques utilisés par d'autres entreprises de la zone industrielle.
Depuis 50 ans, l'or noir s'écoule ici depuis la Russie par l'oléoduc Droujba, long de 4000 km. Il doit être remplacé d'ici la fin de l'année par le pétrole du Moyen-Orient acheminé par tanker via le port polonais de Gdansk. Une solution de remplacement pas idéale aux yeux de Christophe Günther, le directeur d'Infraleuna.
Il va y avoir probablement des difficultés de livraison. La logistique va demander un gros investissement. Et cela va avoir des conséquences pour tous les produits à base de pétrole et donc alimenter l'inflation.
Sur le boulevard, devant la raffinerie, les rares passants qui s'expriment ne craignent pas autre chose.
Que nous prenions maintenant notre pétrole du Qatar ou d'autres pays, ils sont tous en guerre. Mais la Russie, elle, est victime de la russophobie qu'il y a partout. Et c'est nous qui en faisons les frais.
Au mois de juin sera versé par foyer un chèque énergie de 300 euros, sauf pour les retraités.
Un des retraités qui, selon le gouvernement, ont déjà bénéficié de plusieurs aides avec les augmentations de pensions, les sanctions contre Moscou, la situation en Ukraine, vos questions, vos réactions à partir de 13h30 à Anin Colin Lébéref, maître de conférence à sciences politiques à Nanterre, vos appels au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter, rubrique Réagir. Les premiers résultats commencent à tomber en Angleterre, élections locales hier dans le pays pour élire des milliers de conseillers, le scrutin qui avait valeur de test pour Boris Johnson, le Premier ministre qui subit les suites du scandale du Partygate, également les problèmes d'inflation. Et ça ne s'annonce donc pas bien pour le Premier ministre. Bonjour Richard Place, correspondant de France Inter à Londres. Selon les premières tendances, les électeurs ont choisi de sanctionner les conservateurs. Le parti au pouvoir est en recul.
Oui, et il y a des défaites particulièrement douloureuses, comme à Westminster, l'arrondissement de Big Ben, du Parlement, de Buckingham Palace, détenu par les conservateurs depuis sa création il y a 58 ans, est tombé ce matin aux mains des travaillistes. Il rafle aussi la mise à Wandsworth, dans le sud-ouest de Londres, un arrondissement que Margaret Thatcher désignait comme son préféré, un fief pour son parti. Sans subir un raz-de-marée, pour l'heure, les conservateurs enchaînent les revers, et certains responsables locaux pointent Boris Johnson comme principal responsable. C'est le cas de John Mallinson dans le nord de l'Angleterre. Il répond à la BBC.
Je pense qu'il porte une grande part de responsabilité. Ses résultats sont vraiment très décevants. C'était très dur de faire campagne sur les enjeux locaux. Les gens étaient très préoccupés par les problèmes nationaux. Ils ont essentiellement la crise du coût de la vie à l'esprit. Et je dois admettre que le Partygate a rendu la situation encore plus compliquée.
Le Partygate, cette interminable saga des fêtes pirates de Downing Street organisées pendant les restrictions anti-Covid. Boris Johnson a déjà reçu une amende pour l'une d'entre elles et les enquêtes se poursuivent. De mauvais résultats pour les conservateurs pour l'instant, mais ils peuvent quand même se réjouir de voir leur principal opposant ne pas vraiment en profiter. Le nombre de sièges conquis par les travaillistes est inférieur à celui des libéraux-démocrates, les Lib Dems, véritables vainqueurs pour l'instant avec ces résultats partiels. Et les travaillistes conquièrent tout juste plus que les Verts pour l'heure.
Richard Place à Londres, on votait également hier en Irlande du Nord, pas encore de tendance pour l'instant. On sort de la cinquième vague de Covid. Dès ce matin, Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, rassurant chez nos confrères de France Info, le printemps devrait probablement bien se passer, dit-il, tout en rappelant que la pandémie n'est pas finie. Et l'épidémie continue d'ailleurs de perturber le procès des attentats du 13 novembre à Paris. Arrêt sur audience aujourd'hui avec vous, Sophie Parmentier, bonjour.
Bonjour.
On apprend ce matin qu'un accusé a été contaminé au Covid et l'audience va devoir être suspendue, c'est ça ?
Oui, c'est la conséquence immédiate qui a été annoncée il y a quelques minutes par le président de la Cour. Un report de ce procès pour une semaine au moins, avec sans doute une reprise le 17 mai, a dit le président Périès, qui est donc venu annoncer qu'un accusé était atteint du Covid. C'est l'accusé Farid Karkash, à qui on reproche d'avoir fourni des faux papiers à la cellule terroriste. Alors c'est vrai qu'hier, on l'avait vu se tenir la tête dans les mains, demander un médicament. C'est le 7e accusé contaminé depuis décembre à ce procès. Vous savez qu'il y a eu plusieurs reports depuis début janvier. Le premier contaminé, ça avait été Salah Abdeslam. Et donc là, après une accalmie, eh bien à nouveau un accusé contaminé. Et le président Périès a annoncé à ce stade un verdict pour le 29 juin pour l'instant.
Depuis mercredi, en tout cas, la Cour d'assises spéciale de Paris avait repris son travail après quelques jours de pause. En se replongeant dans les auditions des parties civiles, on ne les avait pas entendues, ces parties civiles, Sophie, depuis la série de 350 témoignages à l'automne 2021.
Alors en effet, vous savez qu'à l'automne, il y avait eu 5 semaines de témoignages, en effet 350 survivants et familles endeuillées qui avaient témoigné, et puis des dizaines d'autres qui à la fois n'avaient pas eu le temps, et puis certaines se posaient la question de savoir si elles voulaient réellement parler devant cette cour et devant les accusés ou pas, et donc elles avaient été mises sur liste d'attente. Alors depuis mercredi, il y a un nouveau défilé, il devait y avoir des témoignages aussi tout à l'heure, cet après-midi, avec des rescapés et des familles endeuillées du Bataclan, et d'ailleurs l'accusé Farid Karkash a fait savoir par ses avocats eh bien qu'il regretter qu'il était confus pour ces victimes qui ne pourront pas témoigner. Alors, moi, je dois vous dire que parmi les victimes qui m'ont marqué depuis mercredi, eh bien, il y a par exemple un pompier qui est le premier à avoir témoigné en 8 mois de procès, pompier de Paris qui était jeune, il avait 26 ans le 13 novembre 2015 et il s'est retrouvé au milieu de l'attentat lui-même parce qu'il avait été envoyé pour un autre appel. Quand il s'est retrouvé au milieu des tirs de Kalachnikov, il a été le premier sur les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge et vraiment, il racontait sa détresse à la barre 6 ans après d'avoir dû faire des choix entre les blessés qu'il a laissés mourir et ceux qu'il a sauvés. Et donc, c'était vraiment extrêmement touchant. J'ai été frappée aussi parmi les témoignages de cette semaine par ceux qui ont dit leurs idées suicidaires, en fait, cette semaine, et puis aussi des paroles d'espoir. Et par exemple, un survivant du Bataclan eh bien, qui s'est tourné vers les accusés pour dire « je suis debout et vous n'avez pas gagné ».
Et au-delà des parties civiles, parmi les personnes entendues à la barre cette semaine, des témoins vous ont aussi particulièrement marqué.
Oui, alors je dirais qu'il y a eu deux témoins marquants. Nicolas Hénin, journaliste ex-otage de Daesh, qui a été retenu par certains membres de la cellule terroriste et notamment le commanditaire présumé des attentats, Oussama Attar. Nicolas Hénin, en fait, qui a raconté une scène en fait tout à fait saisissante, une nuit dans un pick-up avec ce commanditaire qui a écrasé un enfant en fait en Syrie sur la route en disant c'est pas grave, on continue. Nicolas Hénin a raconté la torture par ceux en réalité qui sont devenus les planificateurs des attentats. Son témoignage était très très fort et puis témoignage marquant aussi pour moi du juge Trévidic, spécialiste de l'antiterrorisme, qui avait mis en examen en 2012 un homme qui est devenu un kamikaze au Bataclan le 13 novembre. Et le juge Trévidic a dit évidemment après ce massacre eh bien on ne peut que regretter de ne pas l'avoir mis en prison. Et en fait ces mots ont été très forts pour les parties civiles qui ont entendu le juge dans la salle.
Merci Sophie Parmentier pour cet arrêt sur audience en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Cour qui va donc suspendre ses travaux jusqu'au 17 mai. Sophie Parmentier avec les moyens techniques de Julien Girard. Alors que les élèves de terminale sont dans les starting blocks pour les épreuves de spécialité la semaine prochaine, de mardi à vendredi, chaque année, ce sont plus de 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Des jeunes qui pourraient trouver une porte de sortie dans les métiers de la transition écologique. 1 million d'emplois devraient être créés dans le secteur dans les 30 ans qui viennent. Et un système permet de faire la passerelle entre ces jeunes et ces futurs postes, les écoles Être, école de la transition écologique. Et elle propose des formations gratuites pour les métiers qui touchent à l'environnement, des formations qui vont de une journée à un an. Et une de ces écoles est installée dans le 14e arrondissement de Paris. Reportage Louis Fontaine.
À 17 ans, Adam est en décrochage scolaire. Mais grâce à cette école, il a retrouvé le goût du travail.
On apprend en théorie, par exemple, le matin. Et l'après-midi, on va faire en pratique ce qu'on a appris le matin. Et puis on voit tout de suite son projet s'accomplir.
L'école permet de reprendre confiance, mais elle ouvre surtout la porte aux métiers manuels comme jardinier ou manœuvre en construction. Nicolas Mullet, le directeur.
Et nous, on vise exclusivement des métiers en tension, comme tout ce qui est sur la mobilité urbaine, ce qui est sur le vélo, sur les énergies renouvelables notamment. On sait qu'il y a du travail dans ces métiers-là, mais ces métiers-là sont méconnus et ne sont pas valorisés.
Le directeur de l'école l'assure, on peut faire carrière dans l'environnement. Et ça, Malik l'a très bien compris, il a intégré la promo il y a tout juste un mois.
Je travaille dans le traitement des eaux et c'est vrai que je voulais rajouter une compétence supplémentaire qui est l'énergie renouvelable, vu que c'est un peu le métier du futur. Quand on fait des visites, notamment chez les professionnels, ils nous font bien comprendre qu'effectivement, pour demain, ils auront besoin de personnes qualifiées. Et je pense qu'il y a des futures perspectives d'embauche à la clé à la fin de ce stage, je pense.
Malik ne se trompe pas, la formation débouche souvent sur une alternance. Après 3 mois ici, Ulysse a déjà fait son choix.
On a aussi fait l'agriculture urbaine et un petit peu de solaire. Et moi, j'ai préféré le bois. Donc, je vais faire une formation de bois à la fin de cette année à Extramuros.
Depuis 2019, on compte déjà 8 écoles être sur tout le territoire français. La direction espère en implanter une par région d'ici 5 ans.
Un reportage de Louis Fontaine. Il est passé par ici, il repassera par là. Y a-t-il plus de loups en France ou est-il juste plus dispersé? Il a en tout cas été repéré dans plusieurs départements ces dernières semaines et notamment dans le Finistère cette semaine. Une première ici depuis plus de 100 ans. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Alors c'est pas parce qu'on a vu le loup en Bretagne qu'il va forcément en faire son lieu de villégiature.
Eh oui, car le loup est un baroudeur. En cette période de l'année, il peut quitter la meute pour parcourir tout seul des kilomètres, explique Loïc Bled, directeur général délégué à l'Office français de la biodiversité.
Le loup vit en meute et il y a deux périodes dans l'année, concurrence pour la reproduction, concurrence pour la nourriture, où les jeunes, les mâles ou les femelles, peuvent quitter la meute et essayer de découvrir de nouveaux territoires. Et comme un loup en dispersion, comme on dit, peut faire 40 à 80 km par jour ou par nuit, et bien il peut continuer sa route jusqu'à ce qu'il trouve des conditions favorables.
Le loup voyage, mais ça ne veut pas dire qu'il va s'implanter définitivement dans les lieux visités comme le Finistère. Chez lui, c'est encore les Alpes, les Pyrénées, le Massif central.
Pour l'instant, la reproduction n'est avérée que dans l'arc alpin. Donc on a des loups qui se fixent en dehors, notamment dans le Massif central et dans les Pyrénées. Mais en dehors de ces zones dans lesquelles il est fixé, on a pour l'instant constaté que des individus qui vont et qui viennent. Il n'est pas impossible qu'ils se fixent en Bretagne un jour, il n'est pas impossible qu'ils se fixent dans d'autres endroits en France, mais pour l'instant, on n'a pas de présence permanente confirmée.
Pour dire qu'un loup vit pour de bon dans un territoire, il faut 2 années de suite d'observations avérées et confirmées.
Sandy Dauphin, et aujourd'hui, selon les dernières estimations officielles, on compte 624 loups en France, des chiffres toujours contestés par les éleveurs ovins. À l'heure du repas, allez, partons au pays de la bonne chère, en Bourgogne, à Dijon, c'est là qu'ouvre aujourd'hui en plein centre-ville la toute nouvelle cité internationale de la gastronomie et du vin, lieu dédié à la gourmandise donc, et aussi à tout le patrimoine culinaire et viticole de la Bourgogne. On boit, on mange donc, mais pas que, Bernard Thomasson.
Des salles de cinéma, une librairie, un village pour déguster, une exposition sur les arts de la table, une cuisine fonctionnelle pour des démonstrations de chefs ou encore une cave avec 3000 références de vin, dont 1000 de Bourgogne bien sûr, que l'on pourra consommer au verre. Un restaurant, une brasserie, un campus de l'école Ferrandi, la cité de la gastronomie de Dijon se veut un centre culturel tous azimuts autour de la bonne chère. Et elle ne sera pas la seule, puisque 3 autres vont voir le jour d'ici 2024 à Rungis, Tours et Lyon, avec une ambition précise. Pierre Saner, directeur de la mission française du patrimoine et du culture alimentaire.
Ce sont des lieux d'apprentissage, des lieux de connaissance, de découverte, de transmission aussi aux générations futures de ce qu'est l'art du bien manger et du bien boire à la française. Savoir au fond un peu ce que disait évidemment Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'un aliment n'est pas seulement bon à manger, il doit aussi être bon à penser.
Ce réseau est né dans la foulée de l'entrée du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010 à l'UNESCO. À Dijon, 250 millions d'euros ont été investis pour une cité de la gastronomie entièrement ouverte sur la ville et qui entend rester accessible à tous les publics. 13 euros pour une visite découverte.
Bernard Thomasson, dans un instant, la météo, avant ça, la pub.
Suivez le fil infernal du nouveau roman de Franck Tillier. Une enquête en forme de labyrinthe. Un seul témoin amnésique. Trouverez-vous l'issue ? Découvrez Labyrinthe de Franck Tillier chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page, son univers.
La compagnie aérienne Air Transat lance la promo Summer Vibes et vous rappelle qu'au Canada, il n'y a pas de baleines, mais il y a des baleines. Il n'y a pas de forêt, mais il y a du bois en masse. Il n'y a pas de foot, mais il y a du soccer. Et surtout, il y a Air Transat qui propose des vols directs pour le Canada de 8 villes françaises à partir de 249 euros aller-retour avec sa promo Summer Vibes. Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Air Transat, en route pour de nouveaux souvenirs au Canada. Summer Vibes, ambiance estivale.
France Inter aime.
Nous, l'Europe, banquet des peuples. Une grande fresque théâtrale et musicale de Laurent Godet et Roland Ozay, du 7 au 29 mai, au Théâtre de l'Atelier.
Un jour viendra, nation du continent. Vous fondrez en une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne.
Avec 12 comédiens, 7 nationalités, un spectacle fédérateur pour une Europe qui est une géographie et qui devient aujourd'hui une philosophie. Nous, l'Europe, banquet des peuples au Théâtre de l'Atelier, un spectacle France Inter.
La météo tout de suite.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Un après-midi ensoleillé sur la moitié nord.
Oui, soleil et belles éclaircies cet après-midi des Hauts-de-France au Grand Est, de la Normandie et de la Bretagne à la Bourgogne en passant par le bassin parisien et le centre-val de Loire. Et puis soleil également des Pays de la Loire, Hollande et au Limousin. On note tout de même quelques bémols sur les côtes nord de la Bretagne à cause de grisailles localement persistantes. Des éclaircies se développent aussi autour du Golfe du Lion sous l'impulsion du Mistral et de la Tramontane. En revanche, sur le reste du pays, l'après-midi sera nuageux à très nuageux. On garde même un temps instable près du relief avec des développements d'averses. Ces averses seront plus fréquentes en Corse où il a déjà beaucoup plu et puis des orages peuvent éclater sur les Alpes du Sud. Des ondées pourront glisser jusqu'à la Côte d'Azur et vers le Midi Toulousain. Avant une période qui s'annonce de plus en plus douce et même estivale pour la semaine prochaine, les températures maximales repassent quasiment partout au-dessus des normales de saison dès cet après-midi. Prévoyez 20 degrés à Brest, Clermont-Ferrand, La Rochelle et Nice, 21 degrés à Rouen, Nancy, Lyon et Toulouse, 22 degrés pour Paris, Lille et Strasbourg, 23 degrés à Nantes, Cognac et à Marseille et jusqu'à 24 degrés à Montpellier. L'ambiance sera parfois un peu plus fraîche près du littoral avec 16 degrés au Havre et 17 degrés à Biarritz.
Merci Sébastien Léas de Météo France.
France Inter, le 13-14, Jacqueline Fardel.
Plus de deux mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé cette semaine un sixième paquet de sanctions contre la Russie avec une décision inédite, renoncer à l'ensemble des importations européennes de pétrole russe et donc tarir une source de financement de la guerre, affaiblir Poutine. Le président russe qui va célébrer lundi, le 9 mai, la victoire contre le nazisme en 1945 et qui pourrait être tenté d'accélérer l'offensive sur le terrain pour afficher une victoire. Pour faire le point, dans ce 13-14 sur France Inter, Anna Colin-Lébédef, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs peuvent vous poser leurs questions au 01 45 24 7000, également sur France Inter dans la rubrique Réagir, franceinter.fr. Anna Colin-Lébédef, le 9 mai, jour de la victoire pour la Russie, mais la Russie, dans ce conflit avec l'Ukraine, n'en est pas là.
En effet, il n'est pas impossible qu'au moment de déclencher l'offensive fin février de cette année, Vladimir Poutine s'attendait à ce que le 9 mai soit l'occasion d'afficher une grande victoire. En réalité, effectivement, la situation s'est enlisée sur le terrain. Les objectifs initiaux que le Kremlin s'était fixés n'ont pas été atteints. Donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, mettre en scène cette situation qui n'est pas tout à fait glorieuse.
Alors, est-ce que le soutien occidental, la montée en puissance de l'aide militaire occidentale ralentit cette avancée russe, comme le dit Poutine ?
On a plusieurs éléments en fait qui ont joué dans l'échec de la Russie à atteindre son objectif d'invasion massive du pays, de changement de pouvoir à la tête de l'État ukrainien. Il y a effectivement le soutien dont a bénéficié l'armée ukrainienne, mais il y a deux autres éléments. Il y a la transformation de l'armée ukrainienne elle-même, hein, qui est beaucoup plus en état de combattre aujourd'hui qu'elle ne l'a été en 2014 au début de la guerre. Et puis surtout, il y a l'état de l'armée russe. Le pouvoir russe, tout comme nous, hein, on a été désinformés d'une certaine manière, on n'avait pas du tout conscience de l'impréparation de cette armée, impréparation des matériels, mais aussi impréparation humaine, manque d'organisation, manque de compréhension de ce qui se passe sur le terrain. En fait, la combinaison de tous ces éléments ont fait que la guerre dure désormais et s'installe dans une situation que la Russie n'avait pas anticipée.
Alors, est-ce que justement le 9 mai, jour de la victoire, où Vladimir Poutine doit aussi prononcer un discours, il doit y avoir un défilé également à Moscou, est-ce qu'il pourrait changer de ton et par exemple faire une déclaration officielle de guerre, hein, jusqu'ici il n'a pas déclaré la guerre, il faut le rappeler, et on parle d'opération militaire spéciale, est-ce qu'il pourrait y avoir changement de discours?
C'est une question que l'on se pose. Bien évidemment, Vladimir Poutine ne pourra pas se passer de mentionner la guerre en Ukraine au cours de ces célébrations du 9 mai, ne serait-ce que parce que le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale est constamment pointé par le Kremlin. On affirme que les Ukrainiens sont des néo-nazis héritiers du nazisme du milieu du XXe siècle et que donc la Russie est engagée dans une opération similaire à celle de la Deuxième Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre de sources dans les renseignements de différents pays qui pointent la possibilité de déclaration de guerre et puis d'autres qui disent qu'en revanche, alors déclaration de guerre ou pas, parce que les deux ne vont pas forcément en parallèle, l'idée d'une mobilisation de la population, par exemple, ne semble pas être à l'ordre du jour. Hein. C'est-à-dire que même si la guerre était déclarée, d'un point de vue légal, ça suppose des changements dans le fonctionnement politique du pays, avec une centralisation encore plus forte du pouvoir, un certain nombre de changements économiques. Il n'est pas impossible que la Russie y soit préparée, mais je dirais que sur le fond, à mon sens, si ça ne s'accompagne pas d'une mobilisation de la population, une déclaration de guerre aurait un caractère très déclaratif en fait.
Oui, parce qu'effectivement, déclarer la guerre, ça voudrait dire aussi faire appel aux réservistes et peut-être que là, la population russe pourrait coincer aussi ou mal réagir.
Alors, il y a plusieurs options en réalité, c'est-à-dire que le pouvoir russe pourrait, en déclarer une mobilisation partielle, hein, c'est-à-dire dans certaines régions du pays ou alors auprès de certaines spécialités dans le civil qui seraient particulièrement utiles dans le domaine militaire, mais il n'est même pas certain en réalité que l'armée russe en soit là. Hein, c'est-à-dire que, l'État russe et l'armée ne sont pas forcément prêts à préparer, à former, à armer et envoyer sur le terrain aujourd'hui des civils. Et puis, effectivement, la société elle-même pourrait réagir très vivement, en réalité, à la déclaration d'une mobilisation. Parce que c'est une chose de déclarer, quand on vous le demande, que vous soutenez l'action de votre pays en Ukraine, l'action de libération du pays des envahisseurs nazis. C'est une autre chose quand vous réalisez qu'il va vous falloir prendre les armes pour aller mourir sur le terrain. Hein. Et la population russe, en dépit de ces déclarations patriotique, en réalité, les gens sont très attachés en fait à ce que l'État n'intervienne pas dans leur sphère privée et ne leur demande pas de sacrifices qui les touchent personnellement.
Alors selon les renseignements ukrainiens, pour ce 9 mai, il pourrait aussi y avoir un défilé de moindre ampleur à Mariupol, la ville assiégée qui est sur le point de tomber. Ce serait un moyen symbolique pour Vladimir Poutine de s'affirmer, de montrer que les choses avancent malgré tout.
Le pouvoir russe joue énormément sur la mise en scène filmée et la mise en scène présentée à la population. Hein. Je dirais que voilà, la guerre a lieu pour l'essentiel des Russes dans les images qui sont transmises par les médias d'État. Et je dirais le récit de cette guerre est tout à fait différent de celui que nous avons dans nos médias. Les Russes voient une opération humanitaire de libération où l'armée est bien accueillie. Et donc, bien évidemment, Mariupol sera montré, parce que Mariupol est la seule grande ville dont la Russie a réussi à prendre le contrôle. Et donc, Mariupol sera certainement mise en scène comme heureuse d'une libération de sa population par l'armée russe. Il n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait des défilés organisés. On parle même de choses, je dirais, voilà, plus graves du point de vue du droit international de la guerre, comme des défilés de prisonniers. Des défilés de prisonniers, nous en avons vu à Donetsk, au début de ce conflit armé, il y a 8 ans, hein, où les séparatistes ont fait défiler des prisonniers ukrainiens. Aujourd'hui, on craint ce type de, eh bien, de mise en scène un petit peu, enfin, macabre et peu respectueuse du droit international.
Dans les démonstrations de force aussi, il y a aussi cette banalisation de la menace nucléaire ces derniers jours, la multiplication de ces menaces aussi, des simulations de tirs, il faut s'en inquiéter.
Alors, des simulations de tirs et des manifestations de la puissance militaire, on en a déjà eu depuis des années. On en aura encore dans ce 9 mai. Il faut s'attendre à ce que la Russie exhibe, voilà, toutes ses armes nouvelles, même celles qui sont sous forme de prototypes potentiellement menaçantes pour l'Europe. Pour ce qui est de la menace nucléaire, je pense qu'il faut distinguer pour l'instant le discours des médias et le discours du pouvoir. Les médias ont beau être contrôlés par le Kremlin, ils ne diffusent pas complètement un discours de politique officielle. Et donc, effectivement, les médias parlent aujourd'hui, et les journalistes les plus en vue des talk-shows ont pas mal parlé de la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Il faut se dire que ce n'est pas nouveau. Depuis 2014, depuis le début de cette guerre, on entend les principaux propagandistes dans les médias dire « Attention, nous avons l'arme nucléaire », et puis montrer, voilà, dans des animations produites par ordinateur, les dégâts que ferait l'arme nucléaire. Mais effectivement, les médias russes et par l'intermédiaire des médias le pouvoir sont en train de préparer la population à une possible amplification de la guerre, à l'idée qu'on est dans un conflit majeur, que ça ne se limite pas à l'Ukraine, que le vrai adversaire c'est l'Occident et que l'escalade n'est pas impossible.
Anna Colin-Lebedev, l'Union européenne tente de mettre en place un nouveau train de sanctions cette semaine, notamment un boycott du pétrole russe. On a Gilles qui nous appelle de Lyon qui a une question à vous poser. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour France Inter. Alors moi, si vous voulez, contrairement à ce qui se dit, on va pas crier victoire par rapport aux sanctions, parce que de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de pays tout autour qui aident la Russie à contourner les sanctions. Ne serait-ce que les pays du Moyen-Orient, bon, la Chine, ce qui paraît évident, et puis tous les pays qui n'ont pas voulu condamner l'agression russe, qui sont quand même entre les deux, certains qui aident, d'autres qui attendent. Donc pour moi, les sanctions sont incomplètes, et puis je voulais faire un parallèle très rapide entre ce qui s'est passé à Stalingrad avec l'armée nazie qui était là, et ce que font les Russes qui essayent de complètement détruire des villes pour qu'il n'y ait plus personne et pour, dans certains cas, emmener les habitants en tant qu'otages. Voilà, c'était l'intervention que je voulais faire.
Merci Gilles, qui nous appelait de Lyon. Anna Colin-Lebedev, sur l'impact véritable des sanctions européennes.
Alors Gilles a raison, hein, y a pas mal de pays qui se sont, disons, abstenus ou qui se sont prononcés pour le soutien de la Russie. Cependant, entre afficher son soutien et se substituer aux relations commerciales avec que la Russie a aujourd'hui avec l'Union européenne, il y a un décalage. Hein. Et même si la Russie souhaitait un décentrage de son économie, hein, importer davantage depuis d'autres pays ou exporter davantage ses hydrocarbures dans d'autres pays, disons la transition n'est pas si simple, hein. Il n'y a pas forcément les marchés, il n'y a pas forcément les infrastructures non plus pour le transport, si on pense notamment au gaz. Pour ce qui est des relations commerciales, effectivement, on peut avoir l'impression que voilà, on a mis en place quelque chose de très massif, et notamment les entreprises, ça c'est autre chose que les sanctions, mais les entreprises occidentales qui se sont retirées de la Russie, eh bien au final, on n'a pas l'impression de voir l'impact. En réalité, l'économie russe est profondément atteinte, et elle est profondément atteinte dans ses capacités de développement, dans ses capacités de production et dans ses capacités de maintien de ce qui existe actuellement. Sauf que si vous voulez, là il faut le temps que la vague s'amplifie, hein, c'est-à-dire que l'économie russe a déjà été touchée, mais le séisme a déjà eu lieu, mais la vague n'a pas encore atteint tous les secteurs et tous les territoires. Mais il est certain aujourd'hui qu'en Russie on sent déjà, les indicateurs sont bien évidemment tous au rouge. On avait une économie qui semblait puissante intéressante, mais qui est néanmoins extrêmement dépendante de son insertion internationale, aussi bien dans son dépendante pour trouver un marché pour ses produits, mais aussi très dépendante de nos technologies, de nos matières premières, de nos savoir-faire et des partenariats avec nous.
Est-ce que la population russe est informée de ces sanctions et de quelle manière ?
Alors, la population russe est informée des sanctions, mais pas forcément de l'impact des sanctions. Et je dirais que pour l'instant, ces sanctions s'inscrivent dans un récit cohérent d'un Occident qui est en guerre contre la Russie. Donc, ça paraît logique. Voilà, l'arme économique est utilisée. Il est certain que les Russes ne le sentent pas encore énormément. Hein. L'inflation est déjà très importante. Les prix ont augmenté. Mais par exemple, le chômage, pour l'instant, a augmenté de manière peu significative parce que le marché de l'emploi est maintenu artificiellement. Les entreprises ont stoppé leurs activités pour certaines parce qu'il n'y a plus de composantes, parce qu'il n'y a plus de quoi payer. Mais en revanche, l'État les force à continuer à payer les salaires. À un moment donné, voilà, la ressource manquera pour tout ça et l'impact sera beaucoup plus important.
Une question très rapide pour terminer avec Patrick à Rouen. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Allô ?
On vous écoute, Patrick, on vous entend.
Oui, je voulais poser une question en ce qui concerne la mer Noire, la mer de Marmara, la mer Égée, enfin bref, les communications entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Est-ce que la Turquie joue son rôle qu'elle a depuis la convention de Montreux en 36 est-ce qu'elle laisse passer tout le monde ou personne ou certains et pas d'autres ?
Anna Colin-Lebedev.
Je vous avoue que je ne suis pas complètement compétente pour répondre à cette question, étant une spécialiste de la Russie et non pas du droit maritime et de la Turquie. Il est certain que aujourd'hui les Ukrainiens vont affirmer un rôle particulier joué par la Turquie, notamment dans l'armement de fourni à l'Ukraine. Donc on parle beaucoup des Turcs aujourd'hui dans les médias ukrainiens, notamment pour les louer pour les drones qui permettent aujourd'hui à l'Ukraine de détruire massivement des blindés et autres armements russes.
Merci beaucoup Anna Colin-Lebedev, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Merci d'avoir été sur France Inter ce midi.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Jacqueline. On
aujourd'hui
nous dit que les deux France, rurale et citadine, sont irréconciliables. Alors le thème du vif, ce sera un contrepoison. George Sand.
Dans un instant également, la fin de notre feuilleton au Conservatoire de Marseille avec le jazzman Raphaël Imbert. Tout de suite, c'est une chanson. Avec Frédéric Pommier qui reçoit Vincent Delerme. Le chanteur français fête ses 20 ans de carrière avec une série de concerts à l'Européen à Paris jusqu'au 21 mai. À cette occasion, rediffusion aujourd'hui d'une émission du 2 janvier 2021. Vincent Delerme avec Frédéric Pommier qui a choisi Tonight We Flight de The Divine Comedy.
C'est une chanson de 1994 qu'a choisi de nous faire écouter Vincent Delerme, Tonight We Fly de The Divine Comedy. Un extrait de Promenade, le troisième disque du groupe nord-irlandais mené par Neil Annan, un chanteur que Vincent Delerme a vu de nombreuses fois en concert. Quant à Promenade, c'est un album auquel il voue une affection particulière, celle qu'on porte à ses découvertes d'adolescent.
C'est un disque, en fait, quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment l'impression de rencontrer un disque et je me suis dit, tiens, ce mec-là, c'est exactement ce que j'attendais, un type qui était pop-rock, mais avec des arrangements de musique baroque, un truc très lyrique, très prenant, très sentimental aussi. Et c'est un disque un peu concept. Alors en plus, je sais pas, je devais avoir 17-18 ans, c'est vraiment l'âge où on adore le principe d'un concept. Et le concept, c'est la dernière journée, je crois, de l'année 99, d'un couple âgé dans une station balnéaire en Angleterre. Et Tonight We Fly, c'est l'avant-dernier morceau, le dernier. Et il survole la ville comme ça, et il y a cette idée de passer au-dessus de sa vie, de voir les rues. Donc voilà, c'était une chanson qui me faisait beaucoup d'effet et dont je me suis servi par exemple comme générique de début de la première pièce de théâtre que j'avais écrite quand j'étais étudiant. Enfin, voilà, et c'est le morceau un peu symbole de mon affection en général pour Divine Comedy. D'avoir vu la première fois à l'Exocet, à côté de Rouen, et d'être tombé amoureux d'une fille ce soir-là, qui était au concert aussi avec moi, qui était un peu pas le premier amour, mais premier amour de quand t'as 18-19 ans. Donc un truc important. Et puis après, finalement aussi, ce qui est agréable avec des gens comme ça, c'est quelqu'un, je sais toujours que si je vais voir un concert de lui, je serai éternellement heureux et je retrouverai éternellement ce que j'ai aimé la première fois. Donc c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis longtemps.
Est-ce que finalement, à chaque concert, vous ne retrouvez pas le premier amour ?
En tout cas, on le cherche, à défaut de le trouver. Mais là, c'est vrai que c'était assez parfait. Surtout que son personnage est comme ça. C'est-à-dire que quand il est sur scène, c'est un mec qui n'est pas très grand, qui arrive, mais qui joue à augmenter la vie, quoi. Il arrive avec ses petites lunettes de soleil, sa cravate, sa grande voix. Il est un peu magique pour ça, parce que c'est comme s'il avait un petit pouvoir de rendre les choses plus amoureuses, plus intenses, plus fortes.
We Fly de The Divine Comedy, le choix de Vincent Delerme à retrouver jusqu'au 21 mai à l'Européen à Paris. Le dernier épisode de notre feuilleton de la semaine au Conservatoire de Marseille, en compagnie du directeur Raphaël Imbert, musicien, compositeur de jazz. Quelle touche pouvait-il apporter au Conservatoire? Avec Sarah Guibaudot, la conversation a vite tourné autour du thème de l'improvisation, qui n'est pas réservé au jazz, vous allez l'entendre.
Sarah de France Inter, Jean-Jacques Bédiquian, un de nos professeurs de piano, Agnès Condamin, qui est professeur de guitare, et Claire Marsugo.
Je peux vous écouter un petit peu travailler ?
Zou. Là, vous voyez, le professeur qui joue du Claude Bouling, donc un jazzman qui compose pour des musiciens classiques, c'est un élément déjà de rencontre. L'intention, c'est quand même qu'on crée des classes d'improvisation ici, et qui est d'ailleurs un des éléments qui permet la rencontre avec les autres arts. Par exemple, on est en train de mettre en place un workshop d'improvisation dans lequel les comédiens, les danseurs, les musiciens et les plasticiens peuvent travailler ensemble. Dans le cadre des cours d'histoire qu'on donne ici, on rappelle quand même quelque chose, c'est que tous les musiciens classiques, tous les grands compositeurs, Bach, Mozart, Beethoven, étaient des improvisateurs. Faites comme si on n'était pas là. Les organistes, qu'on appelle les organistes liturgiques, ce sont les seuls musiciens classiques qui ont gardé la tradition de l'improvisation classique, pour des raisons de fonction. Quand vous êtes à l'église, si les mariés sont en retard, que le curé chante faux ou ce genre de choses, improviser, c'est quand même, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été détruit dans la musique classique, c'est quand même mettre la poussière sous le tapis. Donc en fait, il faut qu'on retrouve ce plaisir de gérer l'erreur et l'accident. Et c'est pas contradictoire avec le sérieux qu'on doit avoir dans le travail, dans la théorie, dans la pratique de l'instrument. Très longtemps, on a dit, si tu improvises, c'est quand même un moyen de gérer la fausse note. Le mieux, c'est que tu fasses pas de fausse note. Je pense qu'on peut être perfectionniste dans l'improvisation et être un tout petit peu plus souple dans l'académie, en fait. Point de départ de cette rencontre entre Bach et Coltrane, qui est un album qui a d'ailleurs été l'album qui a eu le plus de succès dans ma discographie et qu'on continue toujours à jouer 15 ans après, c'était justement une rencontre ici avec le prof d'orgue André Rossi, deux improvisateurs qui se rencontrent, on improvise. Et en improvisant, on découvre, en jouant des thèmes, des chorales luthériens par exemple, du 17e, 18e siècle, quand je les joue au saxophone, bah vraiment on dirait du Coltrane. Et André, dans la foulée, c'était la première répétition d'improvisation, il me dit bah, « regarde ce que ça donne dans une cantate de Bach, le même thème ». Et le leitmotiv, c'était de se dire bah, « en fait, on va réhabiliter Bach comme improvisateur et Coltrane comme compositeur ».
Qu'est-ce qu'on éprouve quand on est musicien et qu'on improvise ? Est-ce qu'il y a une joie, une excitation particulière ou une difficulté particulière ?
Pour moi, non, parce que moi, je suis improvisateur, c'est mon métier. Donc, en fait, si vous mettez une partition devant les yeux, c'est là où je panique. Pour des musiciens de culture classique, c'est l'inverse qui se passe. Moi, ce que je trouve fabuleux là-dedans, c'est la façon dont on crée un lien avec le public. On doit donner l'impression qu'on assiste à un petit miracle. Improviser permet la rencontre. Particulièrement pour la rencontre avec des domaines artistiques qui sont aussi issus de l'oralité, notamment les cultures urbaines, c'est-à-dire qu'avec un street artiste ou un rappeur, pour le coup avec le jazzman, il y a un tronc commun.
Et donc à Marseille, il y a des choses à faire.
Bah, c'est une capitale. En plus, on est au cœur du centre-ville qui est un des quartiers de street art les plus fascinants d'Europe. J'avais un peu quitté Marseille, un peu fâché avec la ville. C'est une ville qu'on aime et qu'on déteste en même temps en permanence. Au moment où j'ai candidaté ici et que j'ai eu le poste, je constatais qu'il y avait un renouveau marseillais que j'avais pas vécu depuis très longtemps. Il y a quand même une scène alternative extrêmement forte. Même pour mes jeunes étudiants de jazzman, il y a plein de petits endroits où on fait le bœuf, par exemple. Et moi, je suis tellement content de revenir à Marseille dans ce contexte-là. Et alors, comment on intègre un conservatoire par définition un petit peu académique? Comment on l'intègre dans cette dynamique-là? C'est toute la question.
Le feuilleton du 13-14 cette semaine, signé Sarah Guibaudot, réalisation Lucie Lemarchand et le Conservatoire de Marseille qui fête son bicentenaire demain, une nuit des légendes, concert à partir de 18h30.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, vous êtes penché sur les résultats de la présidentielle. La moitié des communes de France ont donné la majorité à Marine Le Pen et parmi elles, une plus forte proportion encore des communes rurales. Alors ça vous a donné envie de relire George Sand, elle qui pendant un demi-siècle a attendu la République au village. Le peu de temps qu'elle l'a vu installer, eh bien ça l'a déçue, mais il y a un mais.
Oui, parce qu'elle a entendu, elle aussi, les mêmes clichés qu'aujourd'hui, bloc élitaire, bloc populaire, Paris-Province, ville contre la campagne. Mais elle parlait de l'expérience française qu'elle avait sans naïveté. Dans son Berry, elle avait vu comment, en juin 1848, la République, en effet, avait vu se dresser contre elle les paysans. Mais en même temps qu'elle savait ce qui se murmurait sur son compte, la paysanne émancipée, elle était née dans une région qu'elle ne cessait de parcourir. Elle pensait que la fraternité y était possible. Alors, je ne parle pas de vous, Jacqueline, qui vivait dans le Cotentin, mais aujourd'hui, la majorité des citadins ne savent pas nommer une dizaine d'arbres, ils distinguent mal le chant d'un oiseau d'un autre. George Sand, elle avait partagé son enfance et son adolescence avec ses voisins. Elle racontait les vrais banquets qu'avec ses camarades de jeu, elle faisait en compagnie d'une jatte de lait et de quelques fruits posés au bord d'une rivière. Plus tard, elle était devenue propriétaire, mais s'entendait assez bien avec ses fermiers, veillant à ne jamais leur faire perdre la face. Et eux l'appréciaient. Le Berry était, sauf exception, une région socialement calme.
Oui, mais dans ses romans dits champêtres, hein, de François le Champy à la Petite Fadette, ils décrivent un paysage de fiction.
Oui, ce que nous nommons après elle la Vallée Noire. Mais c'est une fiction documentée par ses souvenirs de jeunesse, donc, et aussi une attention d'ethnographe à la grandeur des choses qui, à la campagne, durent longtemps. Le lecteur des villes qui n'y entend rien croit lire des pastorales, mais qui sait observer de près des celles de l'indéchiffrable? Le paysan, dans l'œuvre de Sand, n'entre pas n'importe comment dans une maison, n'en sort pas sans façon, ne surgit pas inopinément par derrière. Chacun possède une capacité particulière qui est son secret. La campagne, d'ailleurs, bruisse de secrets. Dans la Mare au Diable, le lieu du même nom, dans la Petite Fadette, vous savez, le guet
que les feux follets éclairent ou rendent dangereux selon les circonstances. Et dans ses livres, George Sand considère tout ce trésor de savoir oral avec le plus grand respect, le plus grand sérieux, et si les citadins ne sont plus du tout prêts à y croire, eh bien, ils préfèrent le dissimuler plutôt que de l'exposer à la moquerie.
Alors, y a-t-il à l'époque, au milieu du 19e siècle, en France, un auteur qui traite le monde rural avec autant de respect?
Lamartine le respectait, Balzac en savait beaucoup, mais il décrivait ses paysans à charge, filous, avares, sans de... les idéalise pas, mais jamais ne l'affleure la suffisance dont dégorgent les commentaires d'aujourd'hui. Vous savez tous, des archaïques, des nostalgiques, ils nous coûtent cher, il leur faut des routes, des services publics. Et en plus, ils votent mal. Un sort a-t-il été jeté à la France, à l'occasion de chaque élection, elle se transforme facilement en une cascade de mépris.
Alors ce sort, Jean, est-il celui de la France? George Sand espérait en une république au village, elle en a vécu l'échec et le passage à un régime autoritaire.
Oui, mais Michel Perrault, qui a si bien parlé de Nohant, écrit « Ni l'indifférence indolente des villageois, ni les écarts sociaux, ni la conjoncture politique, ni même la guerre en 1870, rien n'a jamais anéanti l'énergie de la créatrice de la vallée noire qu'elle voulait fraternelle. D'ailleurs, le régime qu'elle appelait de ses voeux, il a fini par advenir un moment avec les progrès de l'enseignement, l'implantation des institutions républicaines, l'élection au suffrage universel des maires dans les villages, la création dans chaque arrondissement d'une presse contradictoire. On laisse maintenant se défaire ce maillage des communes, mais n'oublions pas que si George Sand est morte en 1876, à un moment où la République était aussi dans l'incertitude, c'est au printemps qu'elle a disparu, une saison à laquelle elle appliquait tous ses soins d'observatrice, les jacinthes sauvages et les orchidées dans les prairies, les sentiers qui se couvraient d'aubépines. Ô nature, ô ma mère, ô ma sœur, aide-moi à vivre, la nature. C'est la seule de ses passions qui ne l'a jamais quittée.
Merci Jean pour cette plongée dans la nature et en poésie. Du Berry à la Drôme, la terre au carré, à la ferme du Grand Laval aujourd'hui. Bonjour Mathieu Vidal.
Bonjour Jacqueline Vidal. Fardel.
J'ai écorché votre nom, bonjour, comment ça va?
C'est pas grave, je ne vous en veux pas. Dernière escale aujourd'hui donc dans la Drôme, nous sommes à Montélier. Vous le verrez, le bonheur est vraiment dans le pré, mais surtout dans la diversité.
Merci, à tout de suite.
C'est le grand retour
des 5 jours 5G
chez Orange. Et comme clair, vous allez
avoir 5 jours pour trouver un téléphone 5G
à petit prix. Ce qui est très clair, c'est que Claire, comme vous, elle aime
faire des affaires.
Du 5 au 9 mai, pendant les 5 jours 5G Orange, profitez de remises exceptionnelles en boutique sur une sélection de téléphones 5G en rapportant votre ancien mobile.
Orange.
5G uniquement en zone déployée avec offre compatible, débit max théorique variable selon fréquence, couverture détaillée sur réseau.orange.fr, conditions en boutique Orange et sur orange.fr.
Innovation des laboratoires LIRAC. Arkeskin, le programme Visage et Corps recommandé par les gynécologues pour corriger les signes de la ménopause sur la peau. Des résultats prouvés par 7 études cliniques et tests consommateurs. Plus de 95% des femmes trouvent leur peau nourrie, redensifiée et moins marquée. Grâce à Arkeskin, 9 femmes sur 10 se sentent mieux accompagnées. En ce moment, pour l'achat d'un soin Arkeskin jour, votre soin complémentaire nuit offert. Dans la limite des stocks disponibles en pharmacie, parapharmacie et sur lirac.com. Détail des tests cliniques sur lirac.com.
France Inter présente La Porte de l'Univers, une bande dessinée de Daniel Gossens, préfacée par Édouard Baird.
Un génie du dessin et quelqu'un dont la lecture fait vraiment du bien.
Robert Cognard, un humoriste perdu en panne d'inspiration, emprisonné pour une mauvaise blague et finalement condamné à un aller simple et sidéral vers la Porte de l'Univers. Un récit détonnant, drôle et imprévisible. La Porte de l'Univers de Daniel Gossens, une BD France Inter.
14h sur France Inter. Les informations, Laetitia Gaillet.
Les dirigeants du G7 se retrouveront dimanche pour une réunion virtuelle, une réunion à laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera présent. Une réunion le 8 mai, la date n'a pas été choisie au hasard, explique le porte-parole d'Olaf Scholz qui l'annonce aujourd'hui. C'est une date historique qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le lendemain, en plus, le 9, la Russie, elle célébrera la victoire russe sur l'Allemagne nazie. D'ici là, c'est à Bruxelles que ça se passe. Aujourd'hui, les 27 étudient une nouvelle mouture du projet d'embargo européen sur le pétrole russe. La Hongrie de Viktor Orban juge insuffisante la durée de la dérogation reportée à 2024 pour son pays pour arrêter les importations de pétrole. Sur le terrain, les Russes ont quasi pris le contrôle dans le Donbass à l'est de la ville de Severodonetsk. Selon le maire, elle est encerclée par les forces russes et les séparatistes pro-russes. Une grande majorité des 100 000 habitants a fui la ville. Il en reste encore environ 15 000 sur place. Par ailleurs, Amnesty International affirme de son côté aujourd'hui avoir les preuves de crimes de guerre commis en Ukraine. Elles sont irréfutables, assure Jean-Claude Samouillet, le vice-président d'Amnesty International France. Une nouvelle suspension dans le procès des attentats de novembre 2015. Un des accusés est positif au coronavirus. L'audience devant la cour d'assises spéciale de Paris reprendra donc le 17 mai prochain et le verdict pourrait être repoussé de fait au 29 juin prochain. Le parquet d'Angers fait appel aujourd'hui de la relaxe du vétérinaire poursuivi.